Bonjour à tous. Nous nous retrouvons donc après une interruption mardi dernier. Il y aura une nouvelle interruption mardi prochain puisque c'est le 11 novembre. Donc, nous nous retrouvons ensuite dans 15 jours. Alors, la séance d'aujourd'hui marque la dernière étape de la deuxième partie du cours. Nous sommes engagés dans cette lecture de l'histoire, spécialement cette lecture de ce qui s'est passé dans les premiers siècles de l'histoire du christianisme, au moment où on a été conduit à approfondir la réflexion sur l'identité du Christ. Et donc c'est une césure importante, puisque dans 15 jours, nous aborderons la troisième et dernière partie du cours. Et là, il n'y aura plus d'interruption jusqu'à la dernière semaine du trimestre, où on essaiera de s'engager plus avant dans une réflexion sur Jésus-Christ, chemin vers le Père, aujourd'hui, en tenant compte, bien sûr, de tout le parcours antérieur, mais en essayant de reprendre des choses à nouveau frais dans le contexte contemporain. Donc, pour faire le lien avec la séance d'il y a 15 jours, je rappelle que au Ve siècle, il y a eu deux grandes controverses au sujet de l'identité du Christ. Une première controverse qui était occasionnée par l'erreur du patriarche de Constantinople, Nestorius, et qui a conduit au concile d'Éphèse en 431. Et une deuxième controverse dont je vais parler maintenant, qui est la controverse avec Eutychès, et qui, elle, a conduit au deuxième concile œcuménique du Ve siècle, à savoir le concile de Chalcédoine. Sans doute est-il utile de rappeler d'un mot ce qui était en jeu dans la première controverse, la controverse avec Nestorius. Nestorius, je l'ai dit l'autre jour, Nestorius, très marqué par la ligne dominante de la christologie antiochienne, était fortement attaché à la distinction entre l'humanité et la divinité du Christ, les deux natures du Christ, nature humaine, nature divine. Mais le problème, c'est que il poussait cette distinction un peu trop loin, parlant d'une simple conjonction extérieure, finalement, entre la divinité et l'humanité de Jésus. Et j'ai montré il y a 15 jours que son adversaire, Cyril d'Alexandrie, lui a répondu qu'il fallait tenir fermement l'union, l'unité radicale du Verbe fait chair. Donc, si vous voulez, la première erreur christologique du Ve siècle, l'erreur de Nestorius, c'était une erreur qui consistait à trop accentuer la distinction entre les deux natures du Christ. La seconde erreur qui va nous retenir maintenant, l'erreur d'Eutychès, c'est l'erreur opposée. Eutychès était un moine des environs de Constantinople. C'était un moine qui, non seulement soulignait l'unité du Verbe fait chair, en quoi il avait raison, mais qui poussait tellement loin ce sens de l'unité du Verbe fait chair, qu'il laissait entendre qu'à la limite, il y avait une sorte d'absorption de l'humanité du Christ par sa divinité. Eutychès disait au fond, à partir du moment de l'incarnation, il y a une seule nature du Christ. C'est vraiment le contraire de Nestorius. Eutychès disait, il y a une seule nature du Christ. Alors, bien sûr, une seule nature du Christ, c'était déjà 20 ans plus tôt, le langage de Cyril d'Alexandrie. Mais Cyril d'Alexandrie, quand il disait « une seule nature du Christ », Il disait cela dans un sens orthodoxe. Il entendait par là l'unité concrète du verbe fait chair. Tandis que Eutychès, quand il parle d'une seule nature du Christ, il veut dire en réalité que l'union est telle que l'humanité du Christ se trouve en quelque sorte absorbée par sa divinité. De même qu'une goutte d'eau absorbée par l'océan. C'est une image qu'on trouve dans la littérature, sinon dans les écrits de Eutychès, en tout cas dans des textes qui présentent sa pensée ou qui se réclament de lui. Voilà. Donc nous avons affaire ici à une deuxième erreur, une nouvelle erreur christologique, une erreur qui est certainement plus grave en un sens que l'erreur précédente, parce que malgré tout, Nestorius était assez nuancé, tandis que Eutychès, on l'a souvent présenté à l'époque ancienne déjà, comme un homme plutôt borné, au fond, quelqu'un qui avait une sorte de hantise du nestorianisme, mais justement pour ne pas tomber dans le nestorianisme, eh bien, il allait à l'extrême opposé et il ne cessait de répéter, à partir de l'incarnation, il y a une seule nature du Christ, mais il entendait cela d'une façon hétérodoxe. Une seule nature du Christ, il entendait cela d'une manière qui ne respectait plus l'autonomie, en quelque sorte, de la nature humaine de Jésus. Bon, ça peut paraître abstrait, ce que je viens de dire. En fait, on voit bien les incidences concrètes que cela a. C'est-à-dire dire qu'il y a une seule nature du Christ, enfin, au sens où on parlait Eutychès, ça revient à dire que, par exemple, quand Jésus est tenté au désert, en réalité, c'est pas bien grave, puisque de toute façon, comme sa nature divine absorbe son humanité, on est sûr d'avance qu'il ne cédera pas aux assauts du tentateur. Vous voyez, l'humanité de Jésus n'est pas respectée dans son autonomie. Et c'est ça, évidemment, qui est problématique dans cette position du moine Eutychès. Alors, ce moine Eutychès rencontre sur sa route un adversaire de taille. De même que 20 ans plus tôt, Nestorius avait rencontré sur sa route un grand théologien en la personne de Cyril d'Alexandrie, quel qu'était son comportement discutable, bien sûr, lors du concile d'Éphèse. De même, 20 ans plus tard, aux alentours de 448-449, Eutychès rencontre sur sa route, il rencontre pas physiquement, il se trouve confronté à un adversaire de taille en la personne du pape Léon. Le pape Léon, qui était un très bon théologien, et qui se rend compte que la position d'Eutychès n'est pas tenable. Et Léon écrit en 449 une lettre fameuse que l'on appelle la lettre à Flavien, ou encore le tome à Flavien, lettre dont je vous ai donné d'ailleurs un bon extrait, donc c'est sur la deuxième feuille, vous avez ça sous les yeux, ça vaut la peine d'écouter quelques lignes de Léon contre Eutychès. Disons, je résume d'un mot avant de lire ce texte, je résume d'un mot la position de Léon, c'est de dire que il faut absolument respecter la distinction de l'humanité et de la divinité de Jésus. Bien sûr, il ne faut pas les distinguer autant que le faisait Nestorius. Enfin, il ne faut pas les distinguer au sens où ça aboutirait à une sorte de... ça risquerait d'aboutir à une sorte de séparation. Mais il faut quand même néanmoins les distinguer tout en tenant, bien sûr, l'unité du verbe fait chair. Et pour dire cela, Léon s'appuie sur les Écritures. Léon argumente à partir des Écritures en montrant que d'après les évangiles, on voit bien que la divinité et l'humanité de Jésus ne sont pas confondues. Le fait que Jésus-Christ soit le Fils de Dieu n'empêche pas qu'il ait eu faim, qu'il ait eu soif, qu'il ait été fatigué, qu'il ait souffert. L'humanité de Jésus n'est pas contournée, elle n'est pas absorbée par sa divinité. Alors je lis donc cet extrait de la lettre de Léon à Flavien. Flavien, c'était le patriarche de Constantinople à l'époque. De même que Dieu n'est pas changé du fait de sa miséricorde, l'homme n'est pas consumé par la dignité divine. Et la nature humaine n'est pas consumée, n'est pas absorbée par la nature divine. Chaque nature fait en communion avec l'autre ce qui lui est propre. Le Verbe opérant ce qui est du Verbe et la chair exécutant ce qui est de la chair. Voilà. Chaque nature est respectée dans sa consistance propre. Et Léon, dans la suite du texte que je vais lire, argumente à partir de l'Écriture. La naissance de la chair est la manifestation de la nature humaine. L'enfantement virginal est l'indice de la puissance divine. Voyez, nature humaine, nature divine, hein, qui ne sont pas confondus. L'enfance du tout-petit se montre dans l'humilité du berceau. La grandeur du Très-Haut est proclamée par la voix des anges. Léon dit, il suffit de lire le récit de la nativité dans les évangiles, on voit bien que l'humanité et la divinité ne sont pas confondues. Il continue, il ressemble au commencement des hommes, celui qu'Hérode, avec impiété, médite de tuer. Mais c'est le Seigneur de toutes choses, celui que les mages se réjouissent d'adorer en suppliant. Un peu plus loin. Ainsi, celui que l'astuce du diable tente comme homme, les anges lui apportent leur service comme un dieu. Avoir faim, avoir soif, être fatigué et dormir, c'est évidemment de l'homme. Mais, avec 5 pains, nourrir 5 000 hommes, donner à la Samaritaine l'eau vive qui permet à celui qui en boit de n'avoir plus jamais soif, marcher sur le dos de la mer sans que les pieds ne s'enfoncent, réprimander la tempête et rabattre l'orgueil de la mer, sans aucun doute, cela est de Dieu. Passons encore beaucoup de choses, mais de même qu'il n'appartient pas à la même nature de pleurer par un sentiment de compassion un ami mort, et une fois écartée la pierre qui ferme depuis 4 jours son tombeau, de réveiller au commandement de la voix cet ami rendu à la vie. C'est bien sûr, c'est le même, Jésus-Christ. Hein. Mais d'un côté, il pleure son ami Lazare, signe de son humanité. Et d'un autre côté, il réveille Lazare, il le fait sortir du tombeau, ce qui est le signe de sa divinité. Donc de même que ça n'appartient pas à la même nature de faire ceci et de faire cela, de pendre au bois et de changer la lumière en nuit et de faire trembler tous les éléments, d'être percé de clous, nature humaine, et d'ouvrir à la foi du larron les portes du paradis, nature divine. De même aussi, il n'appartient pas à la même nature de dire « Le Père et moi, nous sommes un » et « Le Père est plus grand que moi ». En effet, quoique dans le Seigneur Jésus, il n'y ait qu'une seule personne de Dieu et de l'homme, autre pourtant est le principe par où il subit l'outrage commun à Dieu et à l'homme, autre le principe de la gloire commune à Dieu et à l'homme. De nous, en effet, il tient l'humanité inférieure au Père, du Père, la divinité égale au Père. Voilà. Alors, on peut essayer de faire un petit schéma pour récapituler. Avons eu en première controverse Nestorius contre Cyril. d'Alexandrie. Nestorius. La distinction tellement loin que ça risquait d'aboutir à une séparation de l'humanité et de la divinité. D'où la réaction de Cyril d'Alexandrie qui dit qu'il faut souligner l'unité du verbe fécher, union. Du verbe fécher. Bien sûr, Cyril d'Alexandrie reconnaissait qu'il y avait deux natures du Christ. Distinction nécessaire, l'humanité et la divinité du Christ. Mais face au danger représenté par la position de Nestorius, il était conduit à insister surtout sur l'unité. 20 ans plus tard, nous avons la situation inverse. Avec le moine de Tychès, l'insistance est sur une seule nature. Au sens hétérodoxe, au sens où l'humanité n'a plus de consistance, parce qu'elle est absorbée par la divinité. Pour la réaction de Léon, du pape Léon, qui dit, certes, il y a unité du verbe fécher, mais il y a néanmoins deux natures. Mettez bout à bout la position de Cyril d'Alexandrie et celle de Léon le Grand. Une seule personne. Et comprendre que les positions de Cyril et de Léon s'oppose pas. Parce que Cyril, même s'il insistait surtout sur l'unité du verbe fécher, reconnaissait la distinction de l'humanité. Inversement, même si Léon insiste surtout sur la question des natures, bien en même temps, et Cyril est conduit sur un point, l'unité, parce qu'il s'oppose à lui. Tandis que Léon insiste plutôt sur distinction des natures, parce qu'ils s'opposent. L'un et l'autre sont nécessaires. Les deux accentuations, les deux insistances respectives de Cyril et de Léon sont nécessaires pour avoir la définition christologique dans tout son équilibre. Alors, cette définition christologique, c'est celle qui va triompher, qui va être promulguée par le concile de Chalcédoine. Alors, je vous signale, sans m'y arrêter, qu'on n'est pas tout de suite arrivé à ce dénouement. Il y a eu auparavant, en 449, un concile d'Éphèse, un nouveau concile d'Éphèse, après celui de 431. Mais ce concile d'Éphèse de 449 s'est très très mal passé. Décidément, ça ne porte pas bonheur de se réunir à Éphèse. Bon. Parce que Eutychès était parvenu en 449 à rallier à sa doctrine un certain nombre d'évêques et il avait même rallié l'empereur de Constantinople. Voilà. Donc de cette manière, ce concile de 449 était complètement acquis à la cause d'Eutychès. Et il a donné raison à Eutychès. Alors, quand le pape Léon a appris ça, évidemment, il a protesté vigoureusement en disant que ce concile n'était pas un concile légitime et que, en fait, il avait été manipulé par Eutychès. Léon a eu cette formule. Ce concile a été un véritable brigandage, latrocinium en latin. C'est pour ça que ce concile de 449, ce concile sans lendemain, est passé à la postérité sous le nom de brigandage d'Éphèse. Le brigandage d'Éphèse. Voilà. Alors, c'est quand même différent, vous voyez, du concile de 431, bon, qui s'était mal passé lui aussi, pour d'autres raisons, parce que Cyrille n'avait pas attendu l'arrivée des orientaux, mais néanmoins, disons, la doctrine formulée par Cyrille était tout à fait juste et orthodoxe. Voilà. Donc, en 449, ce n'est pas le cas, et Léon proteste vigoureusement. Mais à la suite de ça, l'empereur de l'époque meurt, il est remplacé par un autre empereur qui, lui, comprend que Eutychès est victime d'une erreur. Et suite à un ensemble de tractations entre l'empereur de Constantinople et le pape Léon, il va y avoir la convocation d'un nouveau concile qui se tiendra en 451. Je profite de l'occasion pour dire, on peut être surpris d'entendre aujourd'hui que c'est l'empereur qui convoque les conciles. On dit, de quel droit les empereurs convoquaient-ils les conciles? En fait, à l'époque, ça ne posait pas de problème. Tout simplement parce que on est dans une situation où l'empereur est chrétien, bon, chrétien plus ou moins orthodoxe, suivant les cas, mais enfin chrétien, et comme il est soucieux de la paix de l'Empire et de l'unité de l'Empire, c'est lui qui a l'initiative de convoquer les conciles. Mais, en même temps, les débats pendant les conciles sont dirigés par les évêques, évidemment. La plupart du temps, les empereurs de l'époque ne sont pas des théologiens. Ils font confiance aux évêques pour diriger les débats. Simplement, ce sont eux qui convoquent les conciles. Bref, un nouveau concile est convoqué, donc. Concile qui va se réunir en l'année 451. Alors, on avait d'abord pensé que ce concile se réunirait en Italie. En tout cas, Léon le Grand, le pape Léon, avait souhaité évidemment que le concile se réunisse le plus près possible de l'Italie, puisqu'il lui-même était en Italie. En même temps, il n'a pas trop fait instance, parce que l'Italie, au milieu du 5e siècle, était de plus en plus marquée par des troubles importants avec les invasions dites barbares. Voilà. Donc, ce n'était pas une situation très, très propice. Donc, le pape Léon a accepté que le concile se déroule encore en Orient. Et on avait d'abord songé à Nicée. Il y avait déjà eu le concile de Nicée en 325. Mais l'empereur, compte tenu de tous les troubles qui avaient éclaté, l'empereur trouvait que Nicée, c'était un peu loin de Constantinople. Et donc, il a décidé finalement que le concile se tiendrait à Calcédoine, qui est un faubourg de Constantinople. Donc, concile de Calcédoine de 451. Bon, ce concile se passe bien, très bien. Bon, il comprend essentiellement des évêques orientaux, mais il y a aussi des occidentaux. Et le pape est représenté, enfin le pape n'est pas présent lui-même, Léon n'est pas venu à ce concile, mais le pape était représenté par des légats. C'est pour ça qu'on dit que c'est un concile œcuménique. Et c'est ce concile de 451 qui est le plus important de loin pour la réflexion, pour le dogme christologique, parce que c'est ce concile qui a donné la célèbre définition que je vais lire. Vous avez le texte sous les yeux. Il faut du souffle pour la lire parce que c'est une seule phrase. Je serai obligé de reprendre la respiration quand même. J'essayais de disposer le texte d'une manière telle que la structure en apparaisse plus facilement. Suivant donc les saints pères, nous enseignons tous d'une seule voix à reconnaître un seul et même Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Le même parfait en divinité et le même parfait en humanité, le même Dieu vraiment et le même homme vraiment, fait d'une âme raisonnable et d'un corps, consubstantiel au Père selon la divinité et consubstantiel à nous selon l'humanité, semblable à nous en tout hors le péché, engendré du Père avant les siècles quant à sa divinité, mais au dernier jour, pour nous et pour notre salut, engendré de Marie, la Vierge, la mère de Dieu quant à son humanité, un seul et le même Christ, Fils, Seigneur, Fils unique, que nous reconnaissons en deux natures, sans confusion, sans changement, sans division, sans séparation, la différence des natures n'étant nullement supprimée par l'union, mais bien plutôt les propriétés de chaque nature restant sauves et se rencontrant en une seule personne et une seule hypostase, non pas un fils partagé ou divisé en deux personnes, mais un seul et le même fils, fils unique, Dieu, Verbe, Seigneur, Jésus-Christ, comme autrefois les prophètes l'ont dit de lui, comme le Seigneur Jésus-Christ lui-même nous en a instruit, et comme le symbole des pères nous l'a transmis. Voilà donc la définition de Chalcédoine. Alors c'est une définition qui appelle quelques mots de commentaire. Premier point, nous remarquons que cette définition christologique de Chalcédoine est encadrée par la mention des pères. Si vous voyez la première phrase, suivant les saints pères, et puis à la fin, comme autrefois les prophètes l'ont dit de lui, comme le Seigneur Jésus-Christ lui-même nous en a instruit, et comme le symbole des pères nous l'a transmis. Très intéressant de remarquer cela. On appelle ça une inclusion. C'est tout à fait intéressant, parce que ça veut dire que les évêques qui ont produit cette définition de Chalcédoine avaient conscience de ne rien ajouter à ce que les pères avaient dit. Mais simplement, ils voulaient expliciter le contenu du symbole de foi, compte tenu des erreurs christologiques qui s'étaient déclenchées, eh bien, il fallait expliciter le contenu de ce que le symbole de foi ou les saints-pères avaient déjà dit. Première remarque. Deuxième remarque. Eh bien, vous constatez que la définition, j'essayais de visualiser cela sur la feuille, vous constatez que la définition est scandée par une expression qui revient à trois reprises. Vous savez que dans un texte, ce qui est plus important, c'est le début, c'est la fin, et c'est ce qui est au milieu, toujours. Un texte bien construit, c'est ça. Donc finalement, tout est important. Mais enfin, voyez, au début, un seul et le même Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Au milieu, un seul et le même Christ, Fils, Seigneur, Fils unique. Et à la fin, un seul et le même Fils, Fils unique, Dieu, Verbe, Seigneur, Jésus-Christ. Voilà. Et ici, j'ai essayé de mettre en rouge, j'ai mis en rouge cette formule. Au début, au milieu et à la fin. Donc, nous avons une insistance ici sur l'unité. Ça rappelle quelque chose, cette insistance sur l'unité. Ça rappelle Cyril d'Alexandrie contre Nestorius. Autrement dit, le concile de Chalcédoine intègre, 20 ans plus tard, il intègre la réponse de Cyril à Nestorius. Il y a un seul Christ. C'est très important de noter cela. Concrètement, la Samaritaine ou Simon-Pierre, etc., ils ne voyaient pas une nature humaine et une nature divine. Concrètement, ils voyaient quelqu'un qui était un seul et le même. Voilà. Unité concrète du verbe fait chair. Mais, c'est ma troisième remarque, la pointe originale et nouvelle du concile de Chalcédoine, c'est d'insister plutôt sur la distinction des natures. Pourquoi ? Eh bien parce que le danger à l'époque de Chalcédoine, ce n'est plus d'abord Nestorius, c'est Eutychès. Et donc, tout en rappelant qu'il y a un seul et même fils, comme Cyril l'avait bien dit contre Nestorius, le concile de Chalcédoine s'attache surtout à souligner, contre Eutychès, la distinction des deux natures. Et vous avez ça dans chacune des deux sous-sections de cette définition christologique. Vous voyez, par exemple, je lis au début, le même parfait en divinité et le même parfait en humanité. Alors bien sûr, on dit le même, c'est un seul et le même. Mais la pointe, c'est de souligner qu'il est d'un côté parfait en divinité et de l'autre parfait en humanité. Autrement dit, son humanité n'est pas absorbée par sa divinité. Ou encore, un peu plus loin, Il est consubstantiel au Père selon la divinité. Bon, là, ça rappelle quelque chose. Le Concile de Nicée avait dit cela. Hein. Engendré, non pas créé, de même nature que le Père. Mais le Concile de Chalcédoine ajoute, est consubstantiel à nous selon l'humanité. Donc certes, il est de même nature que le Père, en tant qu'il est le Fils de Dieu, mais en même temps, il est de même nature que nous, consubstantiel à nous, quant à son humanité. Et là, la pointe, c'est quand même de marquer la distinction des deux natures. Aucune des deux natures ne se trouve évacuée sous prétexte qu'il y a l'autre nature. Et cette insistance du Concile de Chalcédoine se trouve notamment exprimée à travers deux adverbes, la troisième ligne, sans confusion, sans changement. Retenons surtout le « sans confusion ». Ça s'est directement dirigé contre Eutychès. Il n'y a pas confusion de la nature humaine, et de la nature divine, mais il y a distinction des deux natures. Alors, en fait, le Concile de Chalcédoine emploie quatre adverbes. En français, on ne se rend pas compte que ce sont des adverbes, hein, parce qu'il y a la préposition « sans », mais en grec, ce sont des adverbes. On parle parfois des quatre adverbes de Chalcédoine, et bien c'est ça. Sans confusion, sans changement, sans division, sans séparation. Et si on regarde de près, on s'aperçoit que sans division, sans séparation, c'est dirigé contre Nestorius. Il n'y a pas de division des deux natures, mais sans confusion et sans changement, c'est dirigé contre Eutychès. C'est clair pour sans confusion. Bon, sans changement, c'est un peu plus compliqué à interpréter. En fait, c'est dirigé aussi contre Eutychès, parce que Eutychès disait, avant l'incarnation, il y avait deux natures, et à partir du moment de l'incarnation, il y a une seule nature du Christ. Donc, pour Eutychès, il y avait changement d'un état à un autre. Voilà. Donc, ces deux formules, sans confusion, sans changement, sont dirigées contre Eutychès. Et la formule de Chalcédoine aboutit finalement à la fin de sa deuxième sous-section, elle aboutit à cette formule qui est pratiquement une citation de Léon Legrand dans le texte que je lisais tout à l'heure. La différence des natures n'étant nullement supprimée par l'union, mais bien plutôt les propriétés de chaque nature restant sauves et se rencontrant en une seule personne et une seule hypostase. Voilà. Alors, ici, nous avons la formule qui récapitule le mieux les réflexions qui ont été menées depuis quelques décennies. Ce que je disais tout à l'heure, à la fois l'insistance de Cyrie, une seule personne, une seule hypostase, et puis l'insistance de Léon, deux natures, eh bien, ça donne cette formule de synthèse, à savoir deux natures, une seule personne. Une seule personne en deux natures. Et vous avez ici la formule aboutie, achevée, de ce concile de Chalcédoine. L'identité du Christ, compte tenu des erreurs qui ont été avancées par Nestorius puis par Eutychès, l'identité du Christ, elle se définit de cette manière-là. Le Christ est une personne en deux natures. Une personne, unité du verbe fait chair, comme Cyrie l'avait montré contre Nestorius, mais deux natures, parce que l'humanité n'est pas absorbée par la divinité, mais qu'il faut maintenir leur distinction, ainsi que Léon a essayé de le montrer contre Eutychès. Une personne, deux natures. Bon, j'attire votre attention sur le fait que quand on réfléchit sur la Trinité, c'est l'inverse. Là, il y a une seule nature, et trois personnes. Forcément, parce que la nature est commune. Ce sont les personnes du Père, du Fils et de l'Esprit qui se distinguent des unes des autres. Mais là, il ne s'agit pas de la Trinité, il s'agit de l'identité du Christ. Le Christ a deux natures, puisqu'il est au sens où il est Fils de Dieu et Fils de l'homme, et néanmoins une seule personne, puisque ces deux natures ne sont pas séparées, mais qu'elles se rencontrent en une seule hypostase ou une seule personne. Voilà donc cette définition de Cacédoine qui représente un aboutissement de toute la réflexion menée par Cyril d'Alexandrie, Léon le Grand, à l'occasion de ces controverses christologiques. Alors ce qu'il faut maintenant ajouter, c'est que à la suite de ces conciles christologiques, des clivages vont se creuser entre différents groupes de chrétiens, entre différentes communautés chrétiennes. J'introduis ici le chapitre 6, de la fin de l'époque patristique à l'époque moderne, reprise, approfondissement, nouvelle question. Du côté de l'Occident, il n'y a pas de problème. Disons que, où il n'y a pratiquement pas de problème, disons. Enfin, si, il y a beaucoup de problèmes en Occident, mais c'est d'autres problèmes. Les problèmes en Occident, à cette époque, au 5e siècle, 5e, 6e siècle, c'est surtout les problèmes autour de la grâce et de la liberté. Les débats entre Augustin et Pélage. Mais, du point de vue christologique, pour l'essentiel, les Occidentaux se rallient complètement à la définition de Calcédoine. Tandis qu'en Orient, des divisions éclatent. Alors, je vous invite à suivre ici ce qui est écrit sur le plan, parce que c'est un petit peu complexe. En fait, il y a trois grands courants qui se dessinent et qui commencent à s'éloigner, à se séparer les uns des autres. Il y a d'abord un certain nombre d'églises qui ont refusé le concile d'Éphèse de 431, le fameux concile qui avait condamné Nestorius. Bien, un certain nombre de chrétiens refusent ce concile d'Éphèse. Et ces églises, on les a appelées traditionnellement des églises nestoriennes. Alors en fait, le mot est trompeur. Parce que c'est très très compliqué, ces chrétiens dits nestoriens. Il y en a en effet qui pensent comme Nestorius, qui partagent l'erreur de Nestorius, et qui, au fond, tendent à trop dissocier la nature humaine et la nature divine de Jésus. Mais il y a un bon nombre d'autres chrétiens dits nestoriens qui, en fait, ne partagent pas l'erreur de Nestorius, mais qui n'acceptent pas le comportement de Cyril pendant le concile d'Éphèse, et qui protestent contre le fait que Nestorius ait été condamné, et qui, en tout cas, plaident farouchement pour qu'on parle de deux natures du Christ. Voilà. Le problème, c'est que c'était pas toujours facile de voir qui était nestorien dans un sens, au sens de Nestorius, si vous voulez, et qui était nestorien dans un sens orthodoxe. Voilà. Toujours est-il que ces églises dites nestoriennes, donc ces églises qui n'ont pas accepté le concile d'Éphèse de 431, se sont développées dès le 5e siècle. Ce qu'on appelle le nestorianisme a été adopté en 484 par l'église perse, une église très importante. Une église très importante qui allait être une église largement missionnaire. Ce sont des chrétiens nestoriens originaires de Perse qui ont pu gagner jusqu'à la Chine. Nous avons gardé des traces, des inscriptions témoignant du christianisme en Chine, des inscriptions datant du 6e ou 7e siècle et qui précisément sont l'œuvre des missions organisées par les chrétiens nestoriens issus de Perse. Cette église de Perse s'est aussi répandue en Inde du Sud en particulier. Aujourd'hui même, ces églises de tradition nestorienne demeurent vivantes. Et je rappelle en particulier deux églises tout à fait importantes. Avant tout, l'église apostolique assyrienne d'Orient. L'église apostolique assyrienne d'Orient, qui est répandue notamment en Iran et en Irak. On a beaucoup parlé, on parle beaucoup en ce moment des chrétiens d'Irak, mais il faut savoir que justement, certains de ces chrétiens sont héritiers de ces églises qu'on appelait jadis églises nestoriennes. Il y a aussi l'église syrienne Mar Thoma de Malabar, en Inde, qui est également de tradition nestorienne. Alors c'est compliqué parce qu'en fait, il y a toute une partie de l'église assyrienne d'Orient qui s'est unie à Rome au XVIe siècle. Voilà. Mais enfin, donc, il y en a d'autres qui sont restés dans la ligne de ce refus du Concile d'Éphèse qui caractérisait les églises nestoriennes durant le premier millénaire. Donc ça, c'est un premier courant, une première église, ou plutôt une série d'églises, les églises de tradition nestorienne. Mais inversement, après le Concile de Chalcédoine, il y a toute une série d'églises qui se sont opposées à ce Concile de Chalcédoine, en disant, il ne faut pas parler de deux natures, nous voulons continuer à parler d'une seule nature du Christ. Les chrétiens, membres de ces églises, dans certains cas, étaient victimes de la même erreur que celle de Tychès. Il disait, il faut garder le langage une seule nature, mais il disait ça dans un sens hétérodoxe, sans voir que, du coup, l'humanité du Christ risquait d'être absorbée par sa divinité. Mais en fait, il y a beaucoup de ces chrétiens qui ont refusé le Concile de Chalcédoine, qui ne partageaient pas la doctrine de Tychès. Simplement, ils voulaient rester attachés au langage une seule nature. Vous voyez, c'est très compliqué. Il y avait quoi ? Ils perdent son latin, ou plutôt son grec, ou son syriaque. C'est très compliqué. Parce que d'un côté, parmi ceux qui disaient deux natures, il y en a qui disaient ça dans un sens tout à fait orthodoxe, celui Chalcédoine, ou dans un sens hétérodoxe, celui de Nestorius. Et inversement, du côté de ceux qui disaient une seule nature, il y en a qui disaient ça dans un sens hétérodoxe, à la suite de Tychès, et d'autres qui disaient ça dans un sens parfaitement orthodoxe. Ils disaient une seule nature, mais au sens où Chalcédoine disait une seule personne. On reconnaît que c'était compliqué. Toujours est-il que ces deuxièmes catégories d'églises qui ont refusé le Concile de Chalcédoine, qui ont voulu continuer à parler d'une seule nature de Christ, ont été très importantes dès le Ve siècle, et en particulier en Égypte, en Palestine et en Syrie. On a donné à ces églises le nom d'églises monophysites. Pourquoi ? Parce que monophysite, ça vient du grec, une seule nature. Monet, physis, une seule nature. Donc on a donné à ces églises le nom d'églises monophysites. Et aujourd'hui même, des églises héritent de ces traditions, de ces courants monophysites qui sont nés au Ve siècle. J'énumère les principales églises. Il y a le patriarcat orthodoxe syrien d'Antioche et de tout l'Orient. Bon, il y a une partie importante de ce patriarcat qui s'est rallié à Rome, mais il y a une autre partie qui est restée séparée de l'église de Rome. Il y a l'église orthodoxe syrienne en Inde, dont une partie s'est aussi unie à Rome en 1930. Il y a bien sûr l'église copte orthodoxe, qui est héritière en Égypte, l'église copte orthodoxe, qui est héritière de ces églises monophysites. Mais là aussi c'est compliqué, parce que comme vous savez, il y a aussi des coptes catholiques, donc copte orthodoxe et copte catholique. Il faut ajouter encore l'église orthodoxe éthiopienne, dont une partie s'est également unie à Rome. Il faut ajouter encore l'église arménienne, qui a rallié les courants monophysites à la fin du Ve siècle, et dont une partie s'est également unie à Rome au XVIIIe siècle. Voilà. Donc, c'est très important de réaliser qu'aujourd'hui, la situation du christianisme, dans une large mesure, hérite de ces controverses du Ve siècle et des réactions qu'elles ont suscitées. Mais heureusement, le travail œcuménique, je redirai tout à l'heure, mais le travail mené dans le cadre de l'œcuménisme depuis quelques décennies, a permis, dans un certain nombre de cas, de rapprocher les positions. Et on a découvert notamment qu'un certain nombre de chrétiens de ces églises qu'on appelait autrefois nestoriennes ou monophysites n'étaient pas, sur le fond, hétérodoxes. Simplement, elles préféraient rester dans la ligne de ces églises qui, au Ve siècle, avaient refusé le concile d'Éphèse ou le concile de Chalcédoine pour les raisons que je disais tout à l'heure. Pas toujours est-il que c'est quand même la première grande division ecclésiale, quoi, avant le schisme du XIe siècle avec l'orthodoxie et bien avant le schisme avec le protestantisme, enfin du XVIe siècle. Les premières grandes divisions, elles datent de cette époque. Bien sûr, la troisième catégorie d'églises au Ve siècle, ce sont les églises dites chalcédoniennes, qu'on appelle aussi églises melkites, qui sont présentes surtout, qui étaient surtout présentes en Asie mineure et en Syrie. Alors toute l'histoire du dogme christologique entre le 5e siècle et le 8e siècle est liée à cette situation ecclésiale que je viens d'évoquer. Il y a bien sûr tous ceux qui ont admis le concile de Chalcédoine, encore une fois, la majorité des occidentaux et une partie des orientaux, mais il y a aussi les églises nestoriennes et les églises monophysites. Et du coup, au VIe siècle, au VIIe siècle, au VIIIe siècle, il y aura régulièrement des tentatives de compromis. On essaiera parfois de rapprocher les points de vue en sorte que les Chalcédoniens et les monophysites, ou les Chalcédoniens et les nestoriens, puissent se réconcilier. Mais ces tentatives n'aboutiront pas. Alors, je vous ai indiqué, là, dans la suite, sur la feuille du plan, je vous ai indiqué les principales étapes de ces controverses. Il y a d'abord, au VIe siècle, l'empereur, le principal empereur de Constantinople au XVIe siècle, qui s'appelait Justinien, avait le souci d'un empire unifié, ecclésialement unifié. Et à cette fin, il a eu à cœur de se réconcilier des monophysites. Lui-même, Justinien, était un partisan du concile de Chalcédoine, mais il a eu à cœur de se réconcilier les monophysites. Et il a convoqué un concile, le concile de Constantinople II, en 553. C'est un concile qui, pour l'essentiel, reprend la doctrine de Chalcédoine, mais qui essaye en même temps de faire quelques concessions aux monophysites. Je donne simplement un petit exemple. Le concile de Constantinople II dit « Oui, Chalcédoine nous a appris qu'il fallait reconnaître deux natures du Christ, mais certains peuvent dire néanmoins une seule nature s'ils entendent l'expression une seule nature au sens de une seule personne. » C'est une sorte de compromis au niveau du langage, typique de ce concile de Constantinople II. Mais malheureusement, ça n'a pas suffi à surmonter la division ecclésiale entre les Chalcédoniens et les monophysites. Alors, il y a eu une nouvelle péripétie au VIIe siècle. C'est ce qu'on appelle la crise monothélite. Alors là encore, c'est lié à une nouvelle tentative de compromis. Bon, au VIIe siècle, l'empire de Constantinople est de plus en plus menacé sur sa frontière orientale. Parce que, à l'Orient, il y a un danger de plus en plus grand, enfin, le danger de l'invasion des Perses. Les Perses, hein, l'Empire perse qui majoritairement était zoroastrien, mazdéen, religion de Zarathoustra, de Zoroastre. Hein. Il y avait des communautés chrétiennes en Perse, hein, mais elles étaient minoritaires, de même que les communautés juives, et elles étaient d'ailleurs souvent persécutées dans les régions correspondant à l'Iran ou à l'Irak actuel. Et en fait, l'Empire perse menace de plus en plus l'Empire d'Orient. Voilà. Et donc, dans ce contexte, l'empereur de Constantinople a le souci de rallier au maximum les monophysites en se disant « plus les chrétiens seront unis, plus l'Empire sera unifié et plus on sera fort pour résister aux menaces éventuelles de l'Empire perse ». Et donc, un patriarche du 7e siècle qui s'appelle Serge, le patriarche Serge de Constantinople, propose un compromis pour essayer de rallier les monophysites. Il écrit au pape de l'époque, qui s'appelle Honorius, il lui écrit « On pourrait proposer le compromis suivant. Bon, Chalcédoine a dit « Il y a deux natures du Christ. » Donc, on va demander aux monophysites d'accepter deux natures du Christ. Mais on va dire, on dira, il y a une seule volonté du Christ. Voilà. Alors, deux natures du Christ, vous, monophysites, on vous demande d'accepter de dire, comme Chalcédoine, il y a deux natures du Christ. Mais si vous faites ce geste, nous, on fait un geste de notre côté à votre égard, on dira, il y a simplement une seule volonté du Christ. Et l'argument est le suivant. Jésus-Christ, dans son agonie, a été complètement uni à la volonté de son Père. Que ta volonté soit faite. Donc on va dire, voilà, de nature, comme l'a dit Chalcédoine, mais une seule volonté du Christ. Comme ça, tout le monde sera d'accord. Les monophysites et les chalcédoniens seront réconciliés. Donc le patriarche Serge écrit au pape, Honorius, il lui demande d'approuver cela, et le pape approuve. C'est-à-dire, au fond, le pape n'a pas vu l'enjeu de la chose. Il n'a pas vu que, évidemment, c'est un petit peu subtil, peut-être, mais il n'a pas vu que ce compromis était dangereux. Parce que, qu'est-ce que ça veut dire? Dire qu'il y a une seule volonté du Christ. Alors, ça veut dire qu'au fond, au moment de Gethsémani, Jésus n'avait aucune liberté, puisque de toute façon, son vouloir était d'emblée un vouloir divin. Il n'y avait pas d'autonomie de sa volonté humaine. Alors, un père de l'Église, Maxime le Confesseur, intervient. Et il intervient pour dire, nous ne pouvons pas accepter un pareil compromis. Bien sûr, il y a l'épisode de Gethsémani. Mais Maxime le Confesseur répond au patriarche Serge de Constantinople, Jésus a commencé par dire, Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi. Il ajoutait, cependant, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Ce qui indique bien deux volontés. Alors, le raisonnement de Maxime, c'est de dire, bien sûr, pour finir au terme, Jésus s'est entièrement rallié à ce qu'il a perçu comme la volonté de son Père. Il est allé jusqu'au bout de sa mission. Mais il a commencé par dire son désir humain, que cette coupe passe loin de lui. Deux volontés du Christ, et non pas une seule. Et donc Maxime le Confesseur, qui est un grand, grand théologien de l'Église hein, au 7e siècle, intervient pour dire « Je comprends très bien vos volontés politiques, politico-ecclésiales, de réconciliation entre les chalcédoniens et les monophysites, mais vous ne devez pas parvenir à un compromis aux dépens de la vérité. En réalité, il faut tenir qu'il y a deux volontés du Christ. » Deux natures du Christ, ça implique aussi deux volontés. Et en fait, l'argumentation de Maxime est très moderne. Parce qu'elle revient à dire, il faut absolument sauver la consistance de la volonté humaine de Jésus. La consistance de son autonomie, de sa liberté, comme on dirait en termes contemporains. Jésus n'a pas été, en quelque sorte, une marionnette entre les mains de son Père, une marionnette manipulée par son Père. Mais Jésus a désiré, il a voulu, au point même de résister dans un premier temps, en un sens, en disant, Père, s'il est possible que cette volonté passe, que cette coupe passe loin de moi. Cependant, que ta volonté soit faite, et non la mienne. En dernier ressort, bien sûr, Jésus communie à la volonté de son Père. Alors finalement, donc il y a un concile qui s'est réuni, le concile du Latran, en 649, qui a confirmé la thèse de Maxime, il y a bien deux volontés correspondant aux deux natures, ce qui ne veut pas dire une séparation. Hein. Il y a un seul sujet, c'est un seul et même Christ. Mais dans dans l'unité de sa personne, bien ce Christ est pleinement homme, et donc il a toutes les caractéristiques de l'humanité, y compris la volonté humaine, la liberté humaine. La volonté est une propriété de la nature, donc puisqu'il y a deux natures, il y a deux vouloirs, deux volontés du Christ, volonté humaine, volonté divine. Et il n'y a pas pour autant opposition entre ces deux volontés, puisque l'une, la volonté humaine, se soumet ultimement à la volonté du Père. Le problème, c'est que la doctrine du Concile de Latran n'a pas été tout de suite acceptée, et que Maxime a été arrêté, exilé, et alors il n'est pas mort martyr au sens strict, mais il a été persécuté, torturé, et on pense qu'il est mort des suites de ses épreuves physiques. On lui a notamment arraché la langue, coupé la langue, violence inouïe, et finalement, donc, il est mort des suites de ses épreuves physiques. Et c'est seulement après sa mort qu'on a reconnu la justesse de sa doctrine, et c'est le concile œcuménique de Constantinople III, en 681, qui a promulgué un texte affirmant qu'il y a deux volontés du Christ. Alors j'ajoute encore un petit mot sur un problème qu'on ne peut pas ne pas se poser quand on aborde le 7e siècle. Je le disais tout à l'heure, le 7e siècle, c'est l'époque où l'Empire perse fait peser une menace considérable sur l'Empire de Constantinople. Il ne faut pas oublier que le 7e siècle, c'est aussi l'époque qui voit la naissance de l'islam, 622. Exactement, 622. Et c'est tout à fait impressionnant de voir que l'islam va se répandre en un siècle sur tous les pourtours du bassin méditerranéen, jusqu'en Espagne et jusqu'en Gaule. Voilà. Une diffusion considérable de l'islam. Et alors, on s'est demandé parfois s'il y avait un lien entre ces controverses christologiques et cette rapide expansion de l'islam. En fait, si on s'est posé la question, c'est parce que parfois on s'est dit, dans la mesure où les monophysites insistaient sur l'unité du verbe fait chair, est-ce que ça n'aurait pas provoqué une réaction opposée, justement, avec l'islam, qui aurait dit, c'est pas possible d'imaginer l'unité de Dieu et de l'homme, parce que ça met en cause la transcendance de Allah. Le problème, c'est que certains historiens ont raisonné en sens contraire, en disant c'est plutôt le nestorianisme qui a pu fournir à l'islam des arguments, dans la mesure où le nestorianisme tendait à poser une sorte de disjonction entre la nature humaine et la nature divine du Christ, eh bien, l'islam pouvait être tenté de justement, sur cette base même, de développer l'idée d'une séparation entre Jésus ou Issa, qui est purement simplement un homme, et Dieu ou Allah. En fait, aucun de ces raisonnements n'est vraiment convaincant. On ne peut pas aujourd'hui, enfin, les historiens s'accordent à dire qu'il n'y a pas de lien direct entre ces doctrines monophysites ou nestoriennes et la rapide expansion de l'islam. Aujourd'hui, on pense beaucoup plus que l'islam est avant tout né comme une réaction radicale contre le polythéisme qui était très répandu dans un certain nombre de populations d'Arabie au 7e siècle. En même temps, on pense qu'il y a un lien indirect entre les controverses christologiques et la rapide expansion de l'islam. Un lien indirect au sens où beaucoup de chrétiens en Égypte, en Syrie, subissaient très durement la tutelle de l'Empire de Constantinople. Et nous avons des témoignages assez terribles qui montrent qu'un certain nombre de chrétiens de cette époque, au 7e siècle, de chrétiens de Syrie, de Palestine ou d'Égypte, vu la pression que le pouvoir de Constantinople exerçait sur eux, ont préféré finalement accueillir les musulmans comme des libérateurs. Voilà. Par exemple, il y a un historien du 9e ou 10e siècle qui dit ceci: le dieu des vengeances, voyant la méchanceté des Romains, il faut entendre par là des impériaux, enfin de l'empire de Constantinople, voyant la méchanceté des Romains qui, partout où ils dominaient, pillaient cruellement nos églises et nos monastères et nous condamnaient sans pitié, le dieu des vengeances, pour cette raison, amena du sud les fils d'Ismaël pour nous délivrer par eux. Ce ne fut pas un léger avantage pour nous d'être délivrés de la cruauté des Romains, de leur méchanceté, de leur colère, de leur cruelle jalousie, et de nous trouver en repos. C'est terrible de dire ça. Mais vous voyez, ça veut dire que ce n'est pas un lien direct entre l'expansion de l'islam et les controverses christologiques, c'est un lien indirect, c'est-à-dire dans le contexte politique très difficile du 7e siècle, certains chrétiens qui enduraient douloureusement la pression de l'empire de Constantinople ont préféré accueillir quasiment les bras ouverts justement les musulmans qui se répandaient tout autour du bassin méditerranéen. Voilà. Puis dernière étape enfin, c'est la crise iconoclaste au 8e siècle. Donc la crise iconoclaste et le concile de Nicée II. C'est la dernière grande péripétie de l'histoire du dogme christologique durant le premier millénaire. Alors cette fois, au 8e siècle, l'islam est bien implanté, non seulement en Orient, mais il s'est également répandu en Occident. Or, dans ce contexte, se développe tout un débat sur le culte des images. A-t-on le droit de vénérer ou non des images ? Et ce conflit oppose des gens qui refusent le culte des images, des chrétiens. C'est un conflit interne aux chrétiens. Donc, un nombre de chrétiens refusent le culte des images en disant, dans la ligne du judaïsme traditionnel, on ne peut adorer que Dieu seul, on ne doit pas se prosterner devant des représentations de la divinité. On les appelle des iconoclastes, au sens étymologique, originel du mot. Et par contre, de l'autre côté, il y a des chrétiens qui sont partisans du culte des images. On les appelle des iconophiles. Voilà, en disant que vénérer des images, ça ne revient pas à une forme d'idolâtrie, c'est tout à fait légitime. Alors finalement, c'est un concile œcuménique, le concile de Nicée II, en 787, qui permet de surmonter ce conflit, au moins provisoirement, en disant deux choses. Premièrement, le concile de Nicée II dit qu'il faut distinguer l'adoration qui est due à Dieu seul et la vénération à l'égard des images. Autrement dit, si je me trouve devant une image sainte, je n'adore pas cette image, parce que je n'adore que Dieu, mais par contre j'ai le droit de vénérer cette image. Et puis le deuxième apport du concile de Nicée II, c'est ce qui nous intéresse plus directement pour la christologie, c'est de dire il est parfaitement légitime de vénérer des images du Christ, des représentations du Christ. Pourquoi ? Parce que le Verbe s'est fait chair, tout simplement. Bien sûr, en tant qu'il est le Fils de Dieu, Dieu, le Christ, en tant qu'il est Fils de Dieu, ne peut pas être représenté au sens où Dieu est invisible. Mais puisque Dieu est devenu homme, puisque le Verbe s'est fait chair, alors il est normal que l'on puisse représenter le Christ, qu'on puisse sous des traits humains, et qu'on puisse vénérer de telles représentations du Christ. C'est ainsi que le conflit a été résolu. Voilà. On va peut-être faire une pause maintenant. Après la pause, je suis prêt éventuellement à répondre à l'une ou autre question que vous auriez, et puis on avancera en direction du Moyen-Âge et d'époque moderne. Voilà, deux petites précisions pour le moment de reprendre. Première précision, j'ai souvent parlé il y a 15 jours, aujourd'hui, des pères de l'Église, déjà il y a 3 semaines. Je rappelle le mot, ce qu'on entend par pères de l'Église, ce sont des auteurs chrétiens des premiers siècles de l'histoire de l'Église, à qui on a reconnu une importance toute particulière du rôle qui a été le leur. Ils ont contribué, des hommes qui ont contribué à engendrer l'intelligence de la foi chrétienne dans différents pays tout autour du bassin méditerranéen. Enfin, c'est le sens général de cette expression des pères de l'Église. La période des pères de l'Église, traditionnellement, on dit qu'elle s'étend du 2e siècle jusqu'au 7e ou 8e siècle, plus ou moins. Voilà. On leur reconnaît une autorité toute spéciale, entre autres à cause de leur ancienneté, du rôle spécial qu'ils ont eu pour contribuer à faire comprendre les principaux enseignements, les principaux aspects, disons, du mystère chrétien. Alors, deuxième précision que je voulais apporter, en écho à une question qui m'était posée pendant la pause, on peut se dire que ce n'est pas tout à fait un hasard si la controverse iconoclaste a été déclenché au 8e siècle. Parce que justement, l'islam s'était répandu au 8e siècle. Or, comme vous savez, l'islam est farouchement anti-image, absolument opposé au culte des images. Voilà. Et donc, on peut se demander, de fait, il n'y a pas de lien direct, mais on peut se demander si cette insistance de l'islam pour dire qu'on ne peut vénérer aucune image de la divinité, etc., on peut se demander si cette insistance n'a pas au moins indirectement contribué à influer ceux des chrétiens qui étaient iconoclastes. Voilà. Au moins, on peut émettre l'hypothèse. Voilà. S'il y a une ou deux questions, je peux essayer d'y répondre. Alors, l'Église, le schisme entre l'Église catholique et l'Église orthodoxe, ça résonne. Le schisme entre l'Église catholique et l'Église orthodoxe, il a été consommé en 1054, en fait, donc c'est le 11e siècle, mais évidemment, 1054, c'est un aboutissement, parce qu'il y avait déjà de vives tensions entre catholiques et orthodoxes dans les 7e, 8e, 9e siècle, 10e siècle. Mais il faut être très prudent dans le langage, c'est un peu compliqué, parce que quand on parle de l'Église copte orthodoxe, c'est pas du tout au sens où on parle de l'orthodoxie aujourd'hui. Quand on parle de l'orthodoxie, je pense que c'était sans d'autres questions. On parle des églises, on fait allusion au schisme du 11e siècle. Tandis que quand je parlais de l'église copte orthodoxe tout à l'heure, je parlais d'une église orientale séparée. C'est l'église qui est dans l'héritage des églises monophysites de l'époque patristique. C'est pas dans le sens du mot orthodoxe. Les orthodoxes, au sens de l'orthodoxie, partagent complètement avec les catholiques et avec les protestants tout ce que je viens de dire sur Chalcédoine, sur l'orthodoxie, admet entièrement, c'est moins qu'on puisse dire, tous les conciles œcuméniques. Les églises dont je parlais tout à l'heure, c'est pas du tout l'église de l'orthodoxie, au sens où on en parle aujourd'hui, c'est les églises héritières du monophysisme et du nestorianisme. Oui ?
Dans la définition.
Oui ? Alors, Oui et non, parce que comment dire, la conception actuelle du personnalisme hérite avant tout d'une compréhension de la personne comme relation, ce qui n'est pas du tout, c'est pas d'abord ça qui est en première ligne dans les textes de l'époque des pères de l'Église. Quand les auteurs anciens, les pères de l'Église, le Concile de Calcédoine, parlent d'une seule personne du Christ, ils n'emploient pas cette expression « une seule personne » au sens où nous parlons des personnes humaines ou de la personnalité de quelqu'un, mais ils l'entendent au sens du sujet métaphysique, en quelque sorte. Hein, vous voyez, c'est pas sans rapport, quand même. C'est pas sans rapport, c'est pas complètement synonyme non plus. Oui, il y a même certains auteurs, certains pères de l'Église qui ont explicitement développé cette analogie, qui ont développé l'idée que de même qu'il y a un composé de l'âme et du corps, alors même que le sujet humain est un, ben de même, analogiquement si on veut, dans le cas du Christ, il y a un composé de la nature humaine et la nature divine, alors qu'il y a une seule personne du Christ. Certains auteurs ont développé cette analogie. Plus anciens, des auteurs du 5e, 6e, 7e siècle, hein, plutôt la seconde partie de l'époque patristique. Ça a été repris aussi parfois à l'époque contemporaine, mais enfin, c'est déjà présent chez les pères de l'Église. Justement, l'issue, hein, c'est de comprendre que la personne, ce n'est pas la nature. Hein. Au fond, le sens des énoncés des pères de l'Église, hein, c'est des conciles christologiques, c'est de dire que l'unique personne, si par le grec ils disent l'unique hypostase, si par le latin ils disent l'unique personne, hein, l'unique personne du Verbe de Dieu a assumé une nature humaine. Voilà. Donc, ce sont deux notions différentes, hein, personne et nature. C'est déjà vrai dans l'ordre de l'expérience humaine. Nous partageons tous la même nature humaine, mais nous sommes tous des personnes différentes. Pierre n'est pas Paul, Paul n'est pas Jean. Bien, de la même manière pour le Christ. Le Christ... Le Christ a assumé la nature humaine, mais le Christ est aussi fils de Dieu. Il est fils de Dieu et il a assumé une nature humaine. Mais ce qui lui permet justement d'être inséparablement le fils de Dieu et vrai homme, c'est sa personne. C'est-à-dire, au fond, son sujet, le sujet subsistant, comme disaient les pères d'Église. Celui qui subsiste. Il y a une autre question ? Oui. 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 Alors, dans la bibliographie générale du cours, je vous avais indiqué un livre sur Éphèse et Calcédoine. Voilà. Mais ça, c'est pour le 5e siècle. Mais dans la même collection, l'histoire des conciles, vous avez un autre livre qui porte sur le 7e siècle, et où il est bien sûr question du monothélisme et de Maxime le Confesseur. C'est un certain Sherwood qui a fait ce livre. Sherwood, Sinon, pour répondre aussi à votre question plus spécifique sur Maxime le Confesseur, notamment la réponse de Maxime à propos de la question des deux volontés, vous avez un livre de Lethel. Il s'appelle « Théologie de l'agonie du Christ selon Maxime le Confesseur hein, ».« Théologie de l'agonie selon Maxime le Confesseur ». Il montre justement comment Maxime défend l'idée des deux volontés du Christ, y compris à propos de l'épisode de Gethsémani. C'est un très bon livre, qui n'est pas très long, mais très bien fait. Voilà, alors... Comme vous le voyez par le plan du cours, nous allons maintenant enjamber à grands pas 10 siècles de l'histoire, d'ici 16h30. Voilà. Pourquoi ? Parce que je voudrais vraiment que la prochaine fois, on aborde une reprise contemporaine hein, du problème de l'identité du Christ. Mais ce n'est pas la seule raison. L'autre raison, c'est que D'une certaine manière, si vous voulez, pour la question de la compréhension théologique de l'identité du Christ, l'essentiel se joue durant le premier millénaire, et spécialement entre le 5e, 6e, 7e siècle, ce que j'ai exposé assez longuement. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des choses fort intéressantes par la suite, mais elles présupposeront toujours cet apport, en particulier l'apport des conciles œcuméniques. C'est vrai, déjà, pour le Moyen-Âge, hein, l'époque médiévale. Oui, auparavant, j'ai indiqué quelques références à des accords christologiques hein, qui ont été signés à l'époque contemporaine, justement dans la ligne de ce que je disais tout à l'heure. On s'est forcé de reconnaître que, même si des chrétiens étaient héritiers des églises monophysites ou des églises nestoriennes de jadis, ces chrétiens ne partageaient pas forcément les erreurs doctrinales de Nestorius ou de Dicès. Et donc le pape Paul VI ou le pape Jean-Paul II ont signé plusieurs accords christologiques dans ce sens, même si bien sûr ça n'a pas suffi à faire retrouver le chemin de l'unité entre ces églises. Et ça, au moins, c'est une contribution. Alors, le Moyen-Âge, justement... Ça illustre tout à fait ce que je viens de dire à propos de l'importance spécifique du premier millénaire. Le Moyen-Âge n'apporte rien du point de vue des conciles, du point de vue de la réflexion doctrinale, si vous voulez. Il n'apporte pas de nouveaux éléments à ce qu'on avait déjà compris à travers les débats christologiques du premier millénaire. Au Moyen-Âge, ce qui est beaucoup plus... ce qui est beaucoup plus neuf au Moyen-Âge, hein, du point de vue du dogme, de l'histoire des doctrines, c'est par exemple tout ce qui touche les sacrements. Où là, voilà, il y a beaucoup de choses qui sont... La liste des 7 sacrements, par exemple, ça nous vient du Moyen-Âge. Hein. Voilà. Mais du point de vue christologique, non, les auteurs du Moyen-Âge ont le sentiment d'être en possession de tout l'essentiel. Justement, de toutes ces définitions, surtout de la définition christologique, telle qu'elle a été élaborée à la faveur des controverses du 5e siècle. Ce qui, par contre, est très intéressant pour le Moyen-Âge, c'est de voir comment certains théologiens, étant ainsi en possession d'une doctrine approfondie sur l'identité du Christ, essayent d'interpréter ou de réinterpréter cette doctrine à partir de leurs options propres ou dans les contextes qui sont les leurs. Alors, je vous donne 2 exemples de cela. Premier exemple, c'est l'exemple d'un moine, Saint Bernard de Clairvaux, qui a vécu pour l'essentiel au XIIe siècle. Voilà. C'est lui qui a redonné vie à l'abbaye de Citeaux, qui avait été récemment fondée, et c'est lui qui a fondé aussi l'abbaye de Clairvaux en 1115. Voilà. Ben, Bernard de Clairvaux, vous savez qu'il a produit quantité de sermons, admirables sermons. Voilà. Et Bernard de Clairvaux n'apporte rien à la compréhension de l'identité du Christ. Hein. Il connaît très bien les conciles christologiques, la définition qu'elle s'éloigne, il n'apporte rien de nouveau. Par contre, ce qu'il apporte, c'est avec l'expérience spirituelle qui est la sienne, comme moine, moine de Citeaux, puis moine de Clairvaux, tradition cistercienne, eh bien, il approfondit de façon très remarquable la compréhension de ce qu'est l'expérience spirituelle du Christ, l'expérience spirituelle d'être à la suite du Christ ou d'être son disciple. Alors j'ai essayé de souligner en particulier, je voudrais souligner surtout deux éléments tout à fait importants dans l'œuvre de Saint Bernard à propos du Christ. Premièrement, Bernard insiste beaucoup sur la dimension du salut, la dimension sotériologique. Les conciles du premier millénaire avaient dit tout l'essentiel sur l'identité du Christ, une personne hors de nature, etc. Mais la préoccupation de Bernard, comme moine, c'est d'abord la préoccupation du salut. Voilà. De quoi ai-je besoin pour être sauvé? Comment être sauvé? Comment le Christ peut-il être mon sauveur? Et dans ses sermons en particulier, Bernard revient sans cesse sur le thème « Le Christ est venu pour nous, il est mort pour nous. » Voilà. Ceci, ce n'était pas du tout absent des conciles du premier millénaire. On l'avait vu dans le texte, la définition du concile de Nicée, ou dans celle du concile de Chalcédoine, on l'avait bien « pour nous et pour notre salut ». Mais les conciles du premier millénaire étaient conduits forcément à insister plutôt sur l'identité ontique, ontologique, si je puis dire, hein, du Christ, une personne en deux natures. Voilà. Parce que c'est ça qui était débattu à leur époque. Mais pour Bernard, au IIe siècle, le point important, c'est comment suivre le Christ d'une façon qui soit fructueuse pour ma propre vie et pour mon salut. Donc, insistant sur cette dimension sotériologique. C'est quelque chose qui sera repris et radicalisé par Luther au XVIe siècle, comme je le dirai tout à l'heure. Et puis alors, un autre thème très très important dans la prédication de Saint Bernard, c'est le thème de ce qu'il appelle les trois avènements ou les trois avants du Christ. Le Christ est venu dans l'histoire, c'est l'incarnation, mais il y a aussi un deuxième avènement du Christ quand il vient en nous, dans l'âme du croyant. Et puis, il y a un troisième avènement du Christ, c'est l'avènement eschatologique, la venue du Seigneur que nous attendons pour la fin des temps. Donc, vous voyez, c'est un thème qui n'était pas développé par les conciles christologiques. Ce n'était pas leur préoccupation. Mais Bernard de Clairvaux insiste sur ce point, parce que évidemment, dans sa méditation sur l'expérience spirituelle, c'est tout à fait essentiel. De façon générale, Saint Bernard insiste sur le fait que le Verbe de Dieu a voulu faire l'expérience de la condition humaine. Encore une fois, il connaît parfaitement le fruit des débats christologiques du premier millénaire, mais son intérêt va avant tout à cette méditation sur la vie du Christ, sur la manière dont le Verbe de Dieu a éprouvé, a expérimenté la condition humaine. Et Bernard insiste aussi beaucoup sur le thème de l'imitation du Christ, thème qui sera repris aussi par beaucoup d'auteurs médiévaux, y compris l'imitation de Jésus-Christ, hein, ça date aussi du Moyen-Âge, hein, vers la fin du Moyen-Âge, c'est un thème récurrent. Donc voilà, c'est un premier exemple, si vous voulez, de la direction dans laquelle s'engagent les auteurs médiévaux quand ils parlent du Christ. Ils ne cherchent pas à produire de nouvelles définitions sur l'identité du Christ, hein, sauf exception. Par contre, ils réfléchissent sur les implications de la doctrine sur le Christ. Ils réfléchissent sur les implications de cette doctrine pour l'expérience spirituelle. Je prends un autre exemple, et qui est un peu en contraste avec le précédent. C'est l'exemple de la théologie scolastique. Vous savez qu'à partir de la fin du XIIe siècle, une nouvelle forme de théologie se développe en France, en Allemagne, en Angleterre, en Italie. Une nouvelle forme de théologie qui est différente de la théologie monastique, comme celle de Saint Bernard. C'est une nouvelle forme de théologie qui met au premier plan l'exigence de la ratio, la raison, l'exigence du raisonnement. La théologie scolastique, les théologiens scolastiques, fin XIIe siècle, XIIIe siècle, les siècles suivants, essayent de réfléchir raisonnablement, rationnellement, sur le bien fondé et sur la signification des doctrines chrétiennes. L'exemple typique, c'est saint Thomas d'Aquin, au XIIIe siècle. Saint Thomas d'Aquin. Et la démarche de saint Thomas d'Aquin, c'est pas du tout de chercher à élaborer de nouvelles définitions au sujet du Christ. Pour lui, l'identité du Christ, c'est celle qui a été justement définie par les conciles œcuméniques du premier millénaire. Mais la démarche de saint Thomas d'Aquin, c'est de dire quel est le bien fondé de ces définitions en raison. Comment rendre compte raisonnablement de ces définitions relatives au Christ. On est à une époque où Aristote a été redécouvert en Occident, notamment grâce aux intellectuels arabes, comme Averroès. Et dans cette époque-là, on se dit, essayons de mettre à profit les catégories philosophiques que nous fournit Aristote pour mieux rendre compte de ce que nous connaissons déjà. Nous croyons déjà que le Christ est vrai homme et vrai Dieu, mais essayons de rendre compte de cela en raison. Alors, je vous donne un ou deux exemples. Dans la Somme théologique, qui est son chef-d'œuvre, saint Thomas d'Aquin consacre une question au sujet suivant. Convenait-il, fallait-il, ou est-il raisonnable de penser que la Vierge Marie doit être appelée Mère de Dieu? Il y a une question qui s'intitule comme cela. La Bienheureuse Vierge doit-elle être appelée Mère de Dieu? Bon, évidemment, Thomas d'Aquin, au XIIIe siècle, il connaît tout de suite la réponse. Bien sûr que oui. Cyril d'Alexandrie, autrefois, s'est battu contre Nestorius. Marie est Vierge et Mère de Dieu. Mais sa démarche, saint Thomas, c'est de dire, pesons les choses, essayons de voir ce qui contribue à fonder en raison cette affirmation que Marie est Mère de Dieu. Et saint Thomas d'Aquin transpose dans la Somme théologique la manière de pratiquer la théologie qui était usuelle à l'université, que ce soit à la Sorbonne ou bien à Cologne ou à Bologne, etc., ou à Oxford, et dans les collèges comme ceux d'Angleterre. Hein, et il dit, la Vierge Marie doit-elle être appelée Mère de Dieu? Premièrement, il semble que non. Quand même, on ne peut pas dire qu'une femme puisse être mère de la divinité. Mais deuxièmement, quand même, il y a Cyril d'Alexandrie autrefois qui a dit « La Vierge Marie est mère de Dieu ». Donc, conclusion, il faut distinguer. En effet, Marie n'est pas mère de Dieu au sens où Marie n'a pas mis au monde la divinité. Mais par contre, elle est mère de Dieu au sens où elle est mère de l'homme Jésus qui lui-même est le Verbe de Dieu. Donc, en sens là, elle est mère de Dieu. Il raisonne pour essayer de rendre compte en raison du bien fondé de ce qui a été dit par l'Écriture ou par les conciles. Voilà. Alors, je vous donne un autre exemple qui est amusant, qui est presque humoristique pour nous. Il y a une autre question de la Somme théologique qui s'intitule ainsi. Convenait-il que le Christ vive parmi les hommes? Alors, la question, convenait-il que le Christ vive parmi les hommes, ça veut dire convenait-il que le Christ ne vive pas seul, retiré des hommes, hein? Convenait-il que le Christ vive au milieu des hommes, hein, qui passent par les villages de Palestine? Convenait-il que le Christ soit au milieu des hommes et des femmes de son temps? Alors, Thomas d'Aquin commence par répondre, il semble que non. Il semble que non, parce que le Verbe de Dieu est devenu homme. le Verbe de Dieu devenu homme devait mener la vie la plus parfaite. Alors la vie la plus parfaite, qu'est-ce que c'est? C'est la vie contemplative, quand on est retiré des hommes et qu'on est voué à la contemplation de Dieu seul. Donc il semble que ça ne convenait pas bien quand même que le Christ vécut au milieu des hommes. Cependant, on lit dans le livre de Baruch, chapitre 3, verset 38, « Dieu est apparu sur la terre et il a vécu avec les hommes. » Conclusion, le Christ devait avoir un mode de vie conforme au but de son incarnation, donc il convenait qu'il vive parmi les hommes. Mais reste quand même l'objection qui a été dite au début. La vie contemplative est quand même plus parfaite, au sens où elle met plus près du Seigneur, et donc le Christ, normalement, aurait dû rester, il aurait dû vivre, je ne sais pas, quelque part, c'est pas Thomas d'Aquin qui dit ça, mais je glose, il aurait dû vivre quelque part dans une grotte, au bord de la mer Morte, sans chercher à rencontrer des hommes ou des femmes de son temps. Mais Thomas d'Aquin répond à cette objection en disant « Oui, en soi, la vie contemplative vaut mieux que la vie active. Mais la vie active, qui consiste à livrer aux autres, par la prédication et l'enseignement, les vérités que l'on a contemplées, est plus parfaite que la vie qui n'est que contemplative. » Donc la vie contemplative est parfaite, mais ceux qui non seulement contemplent, mais ensuite prêchent ce qu'ils ont contemplé, c'est encore plus parfait. C'est ce que le Christ a fait, puisque non seulement il a contemplé, mais il a prêché ce qu'il avait contemplé. Donc, réponse, il convenait que le Christ vécut parmi les hommes. Alors là, je dis c'est humoristique, c'est amusant. C'est qu'en disant la vie la plus parfaite, c'est pas simplement la vie contemplative, mais c'est la vie qui consiste non seulement à contempler, mais à prêcher ce qu'on a contemplé, à prêcher la vérité contemplée. C'est très exactement l'idéal des dominicains. Thomas d'Aquin était dominicain. Donc, évidemment, Jésus-Christ a vécu selon le mode de vie le plus parfait, celui des dominicains. Enfin, c'est moi qui commente. Voilà. C'est passionnant au Moyen-Âge, la théologie médiévale, c'est de voir cette grande diversité de manière de se rapporter au Christ. Mais encore une fois, vous voyez, la contribution du Moyen-Âge, ce n'est pas d'abord un enrichissement de la réflexion sur l'identité du Christ, hein, mais c'est au fond une manière de se rapporter à lui, soit dans le contexte de la vie monastique. Bon, j'ai pris l'exemple de Bernard, on aurait pu prendre déjà l'exemple de saint Anselme avant Bernard, soit dans le cadre de la théologie scolastique, en essayant de fonder en raison, non pas de déduire à partir de la raison le contenu de la foi, hein, parce que Thomas d'Aquin sait bien que l'incarnation, la Trinité, ça nous est révélé, c'est pas quelque chose qui puisse être déduit de la raison, mais il reste néanmoins tout un travail pour la raison qui consiste à rendre compte de façon intelligente de ce que l'on croit. Et cela, aux yeux de Thomas d'Aquin, comme aux yeux de saint Bonaventure, c'est tout à fait nécessaire, notamment dans la perspective des confrontations, des débats avec les intellectuels juifs comme Maïmonide et les intellectuels musulmans comme Averroès ou Avicenne. Et c'est ça le Moyen-Âge, hein, ce contexte aussi de discussion au sein même de la chrétienté, ce contexte de discussion entre théologiens, chrétiens, philosophes juifs, philosophes musulmans, et on essaie de trouver dans la raison, la ratio, l'héritage de la philosophie ancienne, on essaie de trouver là une sorte de grammaire, au fond, qui aide à rendre raison de ce que l'on croit. Voilà pour l'époque médiévale. Alors j'en viens maintenant à l'époque moderne. Il faut dire d'abord quelques mots de Luther. Parce que la pensée de Luther au XVIe siècle marque un tournant. Du point de vue catholique, il n'y a pas vraiment d'innovation, hein, sur le plan de la doctrine christologique au XVIe siècle. Par contre, du côté de Luther, il y a vraiment quelque chose de nouveau, à savoir une insistance très radicale sur la dimension sotériologique du mystère du Christ. La dimension sotériologique. Luther réagit très fortement contre les spéculations de la théologie scolastique. Il réagit très fortement aussi contre tous les efforts pour se situer sur un plan uniquement conceptuel à propos du Christ. Voilà. Tous ces efforts pour pénétrer conceptuellement l'identité du Christ, Luther dit « C'est pas de ça que j'ai besoin. J'ai besoin d'être sauvé par le Christ. » C'est chez Luther l'inquiétude du salut, l'angoisse du salut. Je voudrais vous lire un petit texte de Luther qui est impressionnant par sa radicalité. C'est beaucoup plus radical, bien sûr, que ce qu'on lit chez saint Bernard. Vous avez ce texte en haut de la page 3. Christ a deux natures. C'est ce que nous avons vu, hein, Concile de Chalcédoine. Christ a deux natures. En quoi est-ce que cela me regarde? S'il porte ce nom de Christ, magnifique et consolant, c'est à cause du ministère et de la tâche qu'il a pris sur lui. C'est cela qui lui donne son nom. Qu'il soit par nature homme et Dieu, cela c'est pour lui-même. Mais qu'il ait consacré son ministère, qu'il ait épanché son amour pour devenir mon sauveur et mon rédempteur, c'est là où je trouve ma consolation et mon bien. Croire au Christ, cela ne veut pas dire que Christ est une personne qui est homme et Dieu, ce qui ne sert de rien à personne. Radical, hein ? Tout ce que j'ai dit pendant la première heure, ça ne sert de rien à personne. Je tombe sous le coup, là, de ce qui... Non, cela signifie que cette personne est Christ. C'est-à-dire que pour nous, il est sorti de Dieu et venu dans le monde, c'est de cet office qui tient son nom. Donc Luther congédie, au fond, toute spéculation sur le Christ, qui lui paraît, au fond, une manière d'esquiver la vraie question qui est celle de mon salut. Pas du salut en général, de mon salut. Soyons équitables, hein. Je le redis à nouveau, quand les conciles œcuméniques parlaient du Christ, ils n'oubliaient pas de mentionner pour nous et pour notre salut. Mais c'est vrai que, étant donné les erreurs de Nestorius ou Autiches, les pères de l'Église étaient poussés dans leur retranchement, ils devaient bien se situer sur ce terrain conceptuel pour rendre compte de l'identité du Christ, une hypostase en deux natures. Mais au XVIe siècle, cette unité entre l'aspect ontologique et l'aspect sotériologique, unité qui existait chez les pères de l'Église, elle n'est plus perçue par Luther. Et Luther se dit, au fond, toutes ces considérations, toutes ces spéculations sur l'hypostase du Christ en deux natures, avec tous les termes, toutes les expressions compliquées qui sont liées à cela, la communication des idiots, etc. Tout ça, ça ne me sert de rien. Ce qui me sert, par contre, c'est que Christ me sauve, puisse me sauver. Alors, il ne faudrait pas se méprendre sur la portée de ce texte. Ça serait faire un contresens que de croire que Luther refuse la doctrine des conciles anciens. Ça a été très bien montré par les spécialistes de Luther aujourd'hui. En fait, Luther est complètement convaincu de la justesse des conciles anciens. Luther est complètement favorable à la doctrine christologique du concile de Chalcédoine. Mais son idée, c'est que la priorité doit être redonnée en son temps à la perspective du salut. Et que les énoncés doctrinaux sur le Christ n'ont d'intérêt que dans la mesure où ils sont au service de cette préoccupation du salut. Je vous ai cité quelques lignes de l'un des meilleurs connaisseurs de Luther à l'époque contemporaine, c'est Marc Lienhardt, qui est lui-même protestant, luthérien. Il résume admirablement, je pense, l'innovation de Luther. Il dit ceci, « En fait, l'idée de Luther nous semble être la suivante. La personne du Fils unit en elle les deux natures, hein, comme l'avait dit Chalcédoine. Mais dans cette union hypostatique commence une histoire, une communion intime que Luther nomme personnelle, dans laquelle la nature divine a part à la souffrance humaine et dans laquelle réciproquement la nature humaine a part à l'ubiquité divine. L'hypostase divine descend ainsi véritablement dans l'histoire des hommes et ne reste pas au-delà d'eux comme une conception inaltérable, mais participe entièrement à l'histoire de Jésus de Nazareth. Voilà. Donc en fait, ça nous aide à comprendre le texte de Luther que je citais précédemment. Quand Luther disait « Bon, Christ a deux natures, en quoi est-ce que cela me regarde ?» ça ne voulait pas dire qu'il récusait la définition de Calcédoine. Mais ça voulait dire, ce qui m'intéresse, c'est précisément que dans l'union de la nature divine et de la nature humaine en Christ, a commencé une histoire. La nature divine, à partir de l'incarnation, a pris part à la nature, à la souffrance humaine. Et réciproquement, la nature humaine à part à la nature divine ou à l'ubiquité divine. Voilà, faites ubiquité, être partout. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'échange entre Dieu et l'homme qui se trouve désormais réalisé, accompli dans l'histoire à partir de l'incarnation. Alors ça, c'est évidemment un tournant très très important. Il faudra s'en souvenir, dans 15 jours ou 3 semaines, je réfléchirai, comme je pourrai d'ailleurs, parce que c'est difficile, sur la passion, la mort du Christ, qu'est-ce que ça signifie pour Dieu même? Voilà. Et ben, on retrouvera cette question-là. Jusqu'à quel point la divinité est entrée dans l'histoire? Si vous voulez, les pères de l'Église se contentaient de poser la question de façon abstraite. Ils disaient, nature divine et nature humaine, une seule personne. Voilà. La question que pose Luther, c'est qu'est-ce que ça veut dire concrètement? À partir du moment où le Verbe s'est fait chair, qu'est-ce que ça implique pour la nature divine elle-même? Le fait que Dieu ait assumé la condition corporelle, qu'est-ce que ça implique pour l'être même de Dieu? C'est ça qui commence à pointer à l'horizon et qui sera vraiment développé à partir à l'époque contemporaine. Voilà, donc à l'époque moderne, une étape marquante avec cette pensée de Luther. Je fais un deuxième arrêt. Pardon, oui.
On était marqué quand même.
Oui, oui. Oui, bien sûr. Oui. Oui, je crois que c'était très. Oui, oui, tout à fait. Parce que c'est une grande diffusion. C'est une très grande diffusion. Même si la théologie catholique a eu tendance jusqu'au XXe siècle à rester plutôt dans la ligne de langage surtout ontologique sur le Christ, mais c'est vrai que cette perspective ouverte par Luther a été très marquante dans les générations, les siècles suivants. Et en particulier au XXe siècle, j'aurai l'occasion de le montrer, notamment avec la réflexion théologique de Moltmann sur le Dieu crucifié, sur la souffrance du Christ, la participation du Christ, au fond, et de Dieu même aux épreuves et à la souffrance de l'humanité. Donc on reviendra sur ce point. Alors, je fais une deuxième étape, ou un deuxième arrêt, si vous voulez, dans cette traversée rapide de l'époque moderne, c'est le XVIIIe siècle. Alors là, je vous renvoie à ce que j'avais dit le premier jour, quand j'évoquais le diagnostic d'Albert Schweitzer à propos des vies de Jésus au XIXe siècle. Je disais, selon Albert Schweitzer, les historiens protestants de la vie de Jésus au XIXe siècle n'avaient fait souvent que projeter leurs propres idéaux sur Jésus. En fait, c'est déjà un petit peu ce qui se passe au XVIIIe siècle. C'est-à-dire qu'un certain nombre d'auteurs, chrétiens ou non, plus ou moins chrétiens, parfois déistes, sans vraiment croire au Christ, un certain nombre d'auteurs donc, se représentent Jésus, parfois en projetant sur lui l'idéal de ce qu'on appelle les Lumières ou l'Aufklärung. Il y a un exemple typique, c'est Jean-Jacques Rousseau. Vers la fin, dans les dernières décennies du XVIIIe siècle, Jean-Jacques Rousseau, qui a une grande, grande, haute estime de Jésus. Jean-Jacques Rousseau place Jésus très haut. Pour lui, Jésus est bien au-dessus de Socrate, par exemple. C'est Rousseau qui a écrit quelque part « Si la vie et la mort de Socrate sont d'un sage, la vie et la mort de Jésus sont d'un Dieu. Un très bel hommage à Jésus. Et cependant, pour Jean-Jacques Rousseau, Jésus est un homme divin, beaucoup plus que le Fils de Dieu, au sens propre. Rousseau se représente Jésus comme un homme exceptionnel. Un homme exceptionnel, un homme divin, d'une certaine façon, qui représente l'idéal vers lequel devrait tendre toute l'humanité. Et vous sentez bien que ça ne correspond pas tout à fait à ce que la foi entend par Jésus comme Fils de Dieu. Et on pourrait prendre d'autres exemples. Et puis, il y a un tournant qui s'opère vers la fin, tout à fait à la fin du XVIIIe siècle, et qui va avoir une très très grande portée pour le XIXe siècle, dans le cadre de l'Europe romantique. C'est ce qu'on appelle le songe de Jean-Paul Richter. En 1796, paraît un récit d'un poète allemand qui s'appelle Richter, et ce poète allemand rapporte un songe qu'il a fait. Le titre de ce songe, c'est le suivant. « Du haut de l'édifice du monde, le Christ mort déclare qu'il n'y a point de Dieu. » Et Jean-Paul Richter raconte son rêve. Il rêve qu'il est dans un cimetière près d'une église. Des ombres livides se lèvent de leur cercueil et envahissent l'église. Et le Christ apparaît aux morts. Et il leur dit que... il leur révèle qu'il n'y a point de Dieu. Mais, à la fin, ou plutôt avant la fin, Jean-Paul Richter se réveille et il découvre que c'était un cauchemar. Ouf! Happy end, sauf qu'il parle allemand. Seulement, ce qui se passe, c'est que, je vous ai cité la phrase, hein, il s'agit d'un cauchemar athée. Celui qui a eu le songe se réveille et du coup il rend grâce à Dieu dont l'existence éclate dans la certitude et l'émoi du cœur. On a eu chaud. Comment ce qui se passe? Le problème, c'est qu'en 1810, une grande humaniste de l'époque, Madame de Staël, traduit le récit de Jean-Paul Richter en français, mais sans son dénouement. On n'a que le cauchemar. Et alors, l'Europe romantique va s'emparer de ce rêve et elle va éprouver une sorte de vertige. Au fond, la passion et la mort du Christ signifieraient en quelque sorte le retrait de Dieu, l'absence de Dieu, la mort de Dieu. Je donne un exemple parmi d'autres, c'est le poème qui est bien connu, je pense, des Français parmi vous, le poème d'Alfred de Vigny, « Le Mont des Oliviers ». Un admirable poème sur Jésus, l'agonie de Jésus au Mont des Oliviers. Et ça se termine comme ça. S'il est vrai qu'au jardin sacré des Écritures, le Fils de l'homme ait dit ce qu'on voit rapporter, muet, aveugle et sourd aux cris des créatures, si le ciel nous laissa comme un monde avorté, le juste opposera le dédain à l'absence et ne répondra plus que par un froid silence au silence éternel de la divinité. Les romantiques, boissons de romantiques, au fond, sont saisis vertige. La passion, la mort du Christ, leur inspire toute une méditation sur le retrait de Dieu, l'absence de Dieu. Alors, souvent, il ne s'agit que de littérature. Mais, dans certains cas, ça va plus loin. Et ça devient le tremplin de l'athéisme. Et on a ça spécialement avec Feuerbach ou encore Nietzsche. Le cas de Feuerbach est tout à fait significatif. Feuerbach écrit tout un livre où il parle des dogmes chrétiens. Et sa thèse, c'est qu'au fond, la nature divine ou l'essence divine ne serait que l'essence de l'homme projetée sur un être supérieur. L'homme, l'être humain, aurait projeté sur un être extérieur et transcendant sa propre nature, dans ce qu'elle a de fort comme dans ce qu'elle a de faible. Et Feuerbach dénonce une illusion pour cela. On voit se développer au XIXe siècle ainsi tout un athéisme. Bien sûr, il y a des chrétiens qui continuent à défendre la foi au Christ telle qu'elle a été définie par les conciles christologiques au premier millénaire. Mais à côté de ça, on voit se développer une incroyance et même un athéisme, notamment représenté par Feuerbach et aussi, d'une autre manière, par Nietzsche. L'idée de Feuerbach en particulier, c'est que il y a une sorte d'inversion qui s'est opérée. Dieu, le dogme christologique dit que Dieu est devenu homme en Jésus-Christ, et Feuerbach dit, en réalité, c'est pas Dieu qui est devenu homme, c'est l'homme qui a projeté en Dieu sa propre humanité, ou son propre idéal de la nature humaine. Mais le dogme christologique est présupposé, mais il se trouve retourné, complètement détourné de sa signification initiale, et cela au service ou au profit disons, d'un pur et simple athéisme. Voilà. Il y a un livre fameux du père de Lubac au XXe siècle, le drame de l'humanisme athée. Le père de Lubac montre justement comment au Xe siècle se sont développés un certain nombre de courants, il y a aussi Auguste Comte en France, dans la ligne du positivisme, un certain nombre de courants qui, justement, ont mis en cause de façon radicale ce qu'avait été dit par les conciles christologiques du premier millénaire. Mais le père de Lubac, lui aussi, dans le même livre, Le drame de l'humanisme athée, a tout un chapitre admirable sur ce grand écrivain russe de la seconde moitié du XIXe siècle, qu'est Dostoïevski. Dostoïevski, qui lui était chrétien, mais un chrétien qui a eu à cœur de répondre en quelque sorte, par la voie de la littérature, aux objections de l'athéisme du XIXe siècle. Et c'est le cas en particulier dans un passage remarquable, très célèbre, de son roman « Les frères Karamazov ». C'est la légende du grand inquisiteur. Certains d'entre vous ont sans doute lu ces pages, où l'un des personnages du roman imagine que le Christ revient au XVIe siècle dans une ville d'Espagne, à Séville. Et c'est l'évangile qui recommence. Voilà. On revoit Jésus qui prêche le sermon sur la montagne, qui guérit les malades, etc. Et tout d'un coup, passe le grand inquisiteur. Et il se met à apostropher Jésus. Et il lui fait des reproches en lui disant, tu es venu apporter la liberté. Nous, on avait tout fait pour que le monde soit esclave et toi, tu es venu apporter la liberté, etc., etc. Alors, Jésus ne répond rien. Alors, à la fin, le grand inquisiteur dit à Jésus, tu restes indifférent à tout cela, tu ne réponds rien. Et Jésus continue à rester silencieux. Et ça se termine là-dessus. Enfin, il y a une très très belle finale de l'épisode. Mais à travers ça, si vous voulez, Dostoïevski, au fond, montre à contrario que, justement, l'athéisme du XIXe siècle n'est pas le dernier mot. Et que, par-delà les négations modernes du Christ comme vrai homme et vrai Dieu, il est possible de réaffirmer aujourd'hui même sa foi au Christ. Et le second apport de Dostoïevski, notamment à travers cette légende du grand inquisiteur, donc il imagine Jésus qui revient en Espagne au XVIe siècle, le deuxième grand apport de Dostoïevski, c'est de dire, précisément, malgré les violences de l'histoire, malgré les refus qui ont été opposés au Christ, malgré les grands inquisiteurs, etc., malgré tout cela, le Christ peut revenir, il doit revenir dans l'histoire des hommes. Et donc il y a une sorte d'espérance extraordinaire qui est redonné par Dostoïevski dans ces dernières décennies du XIXe siècle, par-delà les négations de l'incroyance ou de l'athéisme moderne. Voilà, alors tout ceci nous met au seuil de la tâche qui reste la nôtre maintenant, et qui nous occupera dans toute la dernière partie du cours. Mais il s'agira, en tenant compte de toute cette histoire pluriséculaire, toute cette histoire de la réflexion sur le Christ, de la référence au Christ, il s'agira de d'essayer de penser aujourd'hui, au fond, la foi en Jésus-Christ, vrai homme et vrai Dieu, chemin vers le Père. On essaiera de le faire donc dans 15 jours et dans les 4 séances qui suivront.